France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des armes pour l'Europe, le sommet européen de la défense s'ouvre en ce moment à Bruxelles. Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, Moscou lui répond vertement. Nous verrons cela. Nous nous demanderons également d'où va venir l'argent pour se réarmer. Mais aussi, bonjour Éric Biégala.
Bonjour.
Nous parlerons du renseignement. Est-ce que les Français peuvent aider les Ukrainiens?
C'est ce que a dit le ministre des Armées ce matin sur notre antenne. La France aide déjà en matière de renseignement depuis longtemps. Elle continuera à le faire.
Et vos informations dans quelques minutes. Et puis nous irons également dans un des sites de France où l'on sait plus qu'ailleurs ce que veut dire l'amitié entre la France et les États-Unis. Le mémorial de Caen, son directeur, sera notre invité. À suivre encore les larmes de Martine Aubry, la maire de Lille qui annonce son départ dans quelques jours. Ce matin, elle prépare sa succession. Nous irons dans le Pays Basque, des CRS en renfort à la frontière pour contrôler les migrants. En Lorraine, avec des robots dans un supermarché. Et puis un avant-goût du choc Irlande de France de rugby. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Jérôme.
La composition du 15 de France est connue avec Romain Tamac.
Oui, il avait été expulsé contre le Pays de Galles lors du premier match du tournoi. Il sera titulaire samedi à Dublin, tout comme Damien Penaud de retour à l'aile.
On détaille tout cela dans une vingtaine de minutes. À partir de 13h30, accélération des cas de méningite dans notre pays. Moins de 100 cas en janvier, mais beaucoup sont mortels. À Rennes, une vaste campagne de vaccination est en cours. 01 45 24 7000 pour vos questions à nos invités. 13h50, c'est la France, le saviez-vous, les pêcheurs sont 5 fois plus nombreux que les rugbymen dans notre pays. Marie-Luce Ribot avant l'ouverture de la pêche ce week-end. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la chanteuse Macha Garibian, Luz Casal et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
15 millions de Français ont écouté hier soir Emmanuel Macron dénoncer la menace russe, évoquer le retrait américain et lancer cet appel. La patrie a besoin de vous. 15 millions, soit autant qu'en juin dernier pour l'annonce de la dissolution. Des Français en attente de réponse, les plus âgés davantage que les jeunes, paroles recueillies à Amiens.
La guerre se rapproche petit à petit. Toutes les semaines, il y a des nouvelles de plus en plus terribles. On se demande ce qui va nous arriver parce que la Pologne, après l'Allemagne, après c'est nous quoi.
Je suis positive, du coup ça m'inquiète pas trop. Mais c'est sûr que au fond de moi, je sais que c'est un peu compliqué et que le conflit peut très bien déborder et atteindre, nous atteindre, peu importe là où on vit.
Il y a une part d'inquiétude, mais c'est vrai que c'est assez lointain quand même. Du coup pour nous, ça me touche pas directement, on va dire, comme ça, à notre pays et tout.
Je n'ai pas de peur ou d'inquiétude qui naît en moi. Je ne pense pas qu'il y a une volonté même des Russes de s'expandre au-delà de l'Ukraine.
C'est plus inquiétant dans le sens où on voit par exemple que l'Ukraine perd des soutiens comme les États-Unis et qu'il faut actuellement donc renforcer entre guillemets l'Union européenne pour justement soutenir l'Ukraine.
Ses amis hénois au micro d'ici Picardie, renforcer l'Union européenne, nous dit cet ami hénois. C'est précisément l'objectif du sommet du jour à Bruxelles. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Sommet sur la défense que vous suivez pour Inter, sommet qui est censé trouver des fonds pour réarmer l'Union. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky y participe.
Oui, Volodymyr Zelensky, entré au Conseil européen, cette fois en terrain ami, accompagné sur le tapis rouge par la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Qu'il est loin, le bureau ovale. L'humiliation publique infligée au leader ukrainien par Donald Trump. À Bruxelles, il assistera à la première partie du sommet, consacrée précisément au soutien à l'Ukraine. Ici, personne ne le sommera de dire merci, mais il prend les devants.
Je veux remercier tous les leaders européens pour tous les signaux de soutien fort depuis le début de la guerre et ces dernières semaines. Vous êtes restés à nos côtés. Et bien sûr, les Ukrainiens, toute la nation apprécie. Nous sommes extrêmement reconnaissants car nous ne sommes pas seuls. Ce ne sont pas seulement des mots. Nous le ressentons.
Volodymyr Zelensky qui s'entretient en ce moment même avec Emmanuel Macron. Le président français tente de mettre de l'huile dans les rouages entre Kiev et Washington, nous disait-on hier dans son entourage. Le chef de l'État ne s'est pas exprimé avant le début du sommet. Hier soir, dans son allocution, il a prédit des pas décisifs sur l'Europe de la défense qu'il pousse depuis 8 ans. Et disons-le, il savoure de voir ses homologues se rapprocher des positions que lui défendait en solitaire depuis des années. Dissuasion nucléaire européenne ou envoi de troupes après un cessez-le-feu ou plus savoureux encore de voir l'Allemagne, chantre de l'austérité, se convertir au quoi qu'il en coûte pour se réarmer. Dans les couloirs de l'Élysée, on se pince.
Alors Emmanuel Macron, après son allocution hier, a reçu à l'Élysée le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui lui est proche de Poutine et de Trump et qui pourrait tout bloquer à ce sommet, Marie.
Eh bien, en tout cas, en effet, le Premier ministre hongrois, principal relais de Moscou au sein de l'Union, a déjà menacé d'user de son droit de veto pour faire dérailler ce sommet extraordinaire, empêcher l'adoption de conclusions et briser l'unité que les Européens tentent d'afficher. Hier soir, Emmanuel Macron l'a invité à dîner à l'Élysée pour tenter de le faire changer d'avis. On peut toujours essayer, nous disait hier un proche du président. Mais à Bruxelles, personne n'y croit vraiment et les leaders européens s'organisent pour contourner le veto hongrois, quitte à adopter des conclusions sans lui. Ce serait une première absolue.
Marie Mollet en direct avec les moyens techniques de Johanna Gabric. Avant de revenir à Bruxelles dans un instant, allons à Moscou. La Russie pointée du doigt comme jamais hier soir par Emmanuel Macron, accusé, je cite, d'assassiner des opposants, de manipuler les élections en Europe et d'organiser des attaques numériques contre nos hôpitaux. La Russie a vivement réagi ce matin. Jean-Didier Revoin est à Moscou.
Le Kremlin a qualifié ce matin le discours d'Emmanuel Macron de très conflictuel à l'égard de la Russie. Son porte-parole Dmitri Peskov s'inquiète particulièrement des propos du président de la République concernant la doctrine nucléaire française.
Cette rhétorique nucléaire et cette prétention au leadership nucléaire en Europe, tout cela est extrêmement confrontationnel.
Dmitri Medvedev, l'ancien président devenu numéro 2 du Conseil de sécurité russe, a préféré ironiser sur les propos du président de la République, affirmant que Micron lui-même, et non pas Macron, ne représentait pas une grande menace pour la Russie et qu'il disparaîtrait au plus tard le 14 mai 2027. Pour la diplomatie russe, Emmanuel Macron raconte des histoires. Il fait tous les jours des déclarations complètement déconnectées de la réalité qui contredisent les précédentes, a fait savoir sa porte-parole, Maria Zakharova. Konstantin Kosachev, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre haute du Parlement, est le plus sévère. Pour lui, l'analyse d'Emmanuel Macron est erronée et risque de conduire à des erreurs fatales. En suggérant à ses concitoyens, à ses alliés et au monde entier que les Russes arrivent, cette vision fallacieuse risque, aux yeux du sénateur, de conduire vers l'abîme. La tonalité de ses réactions montre que les autorités russes ont décortiqué très minutieusement le discours d'Emmanuel Macron, sans pour autant se laisser impressionner. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Pendant ce temps, les Américains maintiennent la pression sur Volodymyr Zelensky. Selon le site américain Politico, l'administration Trump a pris contact avec des opposants au président ukrainien pour préparer sa succession. Les Européens tentent, eux, de suppléer ce soutien américain en argent, mais aussi en renseignement. C'est ce qu'on va voir avec Éric Biegala, notre spécialiste défense, et avec Fabien Cazot. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Éric, d'abord, parole à vous, parce que ce matin sur Inter, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a dit « La France fournit du renseignement militaire à l'Ukraine ». Ça paraît évident, mais c'est la première fois que la France le dit aussi clairement. On sait de quel renseignement il s'agit ?
Ah bah non, évidemment, hein, par définition, le renseignement qu'on donne ou qu'on prend, c'est du secret défense, surtout quand il s'agit d'enseignement opérationnel, c'est-à-dire utilisable directement par les Ukrainiens sur le champ de bataille. Alors ça peut être, par exemple, la position exacte de telle ou telle unité, fixe ou en mouvement, ce qui permettra aux Ukrainiens un ciblage de précision. Les satellites espions français peuvent parfaitement repérer ces objets depuis l'espace. Ariane 6, d'ailleurs, devrait lancer dans les prochaines heures le dernier des trois satellites d'observation militaire, CSO. L'essentiel du renseignement militaire passe par ces satellites d'observation qui peuvent détecter au sol aussi bien les ondes radar émises par des batteries de tir ennemies, par exemple, leur communication radio. Ce sont les satellites français CERES qui font ça. Depuis l'espace, on repère aussi les masses métalliques, déplaçant ou fixe, c'est l'imagerie radar qui peut être très très précise, hein. On peut ainsi repérer un réseau de barbelés depuis l'espace. Toutes ces capacités de renseignement, les Européens, notamment les Français, les ont et en fournissent certainement une bonne partie aux Ukrainiens. Mais ce renseignement demeure parcellaire, lacunaire, me disait un général, quelques jours, très loin en tout cas de pouvoir remplacer le renseignement fourni par les satellites américains.
Et puis il y a ce plan de réarmement, jusqu'à 800 milliards d'euros qui est sur la table aujourd'hui. En clair, Fabien Cazot, on vous retrouve, on va encore emprunter.
Oui, d'abord à l'Union européenne, puisque dans les 800 milliards annoncés avant-hier, il y en a 150 qui seront des prêts consentis par la Commission européenne aux États membres, de l'argent qu'elle emprunte elle-même sur les marchés financiers à des taux plus favorables que ceux qu'obtiendraient la plupart des pays européens. Ensuite, la deuxième question, c'est celle d'un grand emprunt en commun souscrit par les 27 États membres, comme cela avait été fait pour relancer l'économie européenne, on s'en souvient, après la crise sanitaire en 2020. On sent ici que le sujet n'est pas encore assez mûr. La France France pousse dans cette direction, mais les pays, notamment d'Europe du Nord, se montrent réticents. Ce n'est pas officiellement à l'ordre du jour du Conseil européen aujourd'hui, mais la question reviendra certainement lors des prochains sommets fin mars et surtout fin juin. En attendant, la Commission européenne desserre l'étau de ses procédures budgétaires pour faciliter l'investissement dans la défense. Emmanuel Macron, arrivé ici il y a tout juste une demi-heure, prévenait encore hier soir que ces investissements nécessiteront des arbitrages budgétaires courageux, comme il a dit.
Merci à tous les deux pour ces explications. Bonjour Kléber Haroul.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes directeur général du Mémorial de Caen. Vous accueillez chaque année chez vous des centaines de milliers de visiteurs qui viennent comprendre ce qui s'est passé en 1944 sur les côtes normandes, la libération de la France avec l'aide et le sacrifice des Américains. Dimanche, après le clash entre Zelensky et Trump, vous avez fait hisser le drapeau ukrainien devant le Mémorial. Pour quelle raison ?
Sans aucune hésitation. Le drapeau ukrainien flotte effectivement depuis dimanche sur l'esplanade ensoleillée du Mémorial de Caen, parce que ici, au Mémorial de Caen, on défend des valeurs, notamment des valeurs de liberté. Il fallait exprimer aussitôt la solidarité avec l'Ukraine et la solidarité avec le peuple ukrainien. Parce que ce qui s'est passé le vendredi dernier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, c'est un crash diplomatique. Et ce crash diplomatique a incontestablement accéléré l'histoire. Et aujourd'hui, l'Europe est seule face à son histoire.
Est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump, par ses mots, par ses décisions, trahit la mémoire des Américains qui ont contribué à libérer notre pays ?
Ici en Normandie, nous aimons les Américains. Nous aimons cette Amérique qui a débarqué le 6 juin 1944 à Utah Beach, à Omaha Beach. Ici même, au Mémorial de Caen, nous célébrons cette Amérique-là, l'Amérique des années 20, 30, 40, à travers l'exposition que nous avons organisée l'année dernière, l'aube du siècle américain. Cette année même, en 2025, nous célébrons l'Amérique à travers une très belle figure que Varian Fry, une exposition. Nous aimons l'Amérique, mais l'Amérique de la liberté, l'Amérique qui respecte. Et cette Amérique, lorsqu'elle s'éloigne de ces valeurs que je viens d'évoquer, de liberté et de respect, eh bien, il appartient à un grand musée comme le Mémorial de Caen de rappeler quelles sont ces valeurs.
C'est pourquoi vous avez décidé de sortir en début d'année du réseau social X d'Elon Musk pour dénoncer aussi les contre-vérités qu'il diffuse ?
Absolument. Le 6 janvier dernier, j'ai pris la décision de quitter le réseau X parce que tout simplement, son propriétaire, qui est Elon Musk, a pris des positions politiques. Des positions politiques, il a le droit d'avoir ses positions politiques, mais ses positions politiques sont à l'exact opposé des valeurs que nous défendons au Mémorial. C'est pour cela que nous avons quitté le réseau X.
Merci Kléber Haroul d'avoir été en ligne avec nous dans ce 13-14. Le Mémorial de Caen, ouvert tous les jours de 9h à 18h. La guerre en Ukraine, qui a entraîné il y a 3 ans une forte inflation en France, et notamment la hausse des prix de l'énergie, associée, c'est vrai, au raté de notre parc nucléaire. Et ses conséquences se font toujours sentir. L'an dernier, les interventions pour impayés, pour factures d'électricité ou de gaz dans notre pays, ont augmenté de 24%. Les passoires énergétiques expliquent aussi ce chiffre. Bonjour Louise Buyens.
Bonjour.
Selon le médiateur national de l'énergie, il n'y a jamais eu autant de coupures ou de limitations dans notre pays.
Plus d'1 200 000 interventions, un chiffre qui augmente depuis 5 ans, surtout à cause de la hausse des prix. Elisabeth en a fait les frais. Plus de gaz chez elle pendant 2 jours.
C'était le mois de novembre. On était en plein hiver en plus. Hein. Et moi, le problème, c'est qu'ils m'ont coupé comme ça, sans me prévenir, sans courrier, sans rien. Donc, je suis restée quand même tout le week-end sans gaz. C'est les chauffages, c'est tout, c'est la totale. Hein. C'est la nourriture, le gaz, tout.
En cas d'impayé, dans les 3/4 des cas, le fournisseur se contente de réduire le courant, une situation qui reste très difficile à vivre, explique Frédéric Ferriot, directrice générale du médiateur de l'énergie.
Ça vous permet d'allumer la lumière, de brancher un ordinateur ou de recharger votre téléphone, de brancher un frigo, mais on va pas pouvoir se chauffer. Et puis si on branche plusieurs appareils en même temps, l'installation va disjoncter, donc c'est extrêmement limité et inconfortable.
Et souvent, c'est la double peine, car les ménages concernés sont aussi ceux qui vivent dans des passoires énergétiques.
Plus d'un ménage sur 10 en France qui vit dans une passoire thermique dans lesquelles les gens ont froid l'hiver et chaud l'été.
Le médiateur de l'énergie plaide pour accélérer les efforts de rénovation thermique. En attendant, il y a le chèque énergie, 150 euros par an en moyenne, un montant qui, selon le médiateur, n'a jamais été revalorisé depuis sa mise en place il y a 7 ans.
Louise Buyens, 24 ans, qu'elle est maire de Lille, quasiment un tiers de sa vie, et Martine Aubry s'apprête à tourner la page. Elle annonce ce matin qu'elle va démissionner dans quelques jours pour laisser la place à un an des prochaines élections municipales. Bonjour Maxence Lambrec. Maxence, est-ce que vous m'entendez ? Vous êtes en direct de Lille. Maxence, Martine Aubry veut organiser sa succession ?
Et oui, elle veut cette fois-ci organiser sa succession, puisque la fois dernière, les écolos ont failli la battre à 200 voix près. Elle sait que ce sera difficile pour le PS de résister l'an prochain. Alors, elle offre à son premier adjoint, Arnaud Deslandes, un an dans son fauteuil de maire.
C'est vrai que le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. J'ai donc décidé de démissionner mi-mars. Je souhaite que notre premier adjoint, Arnaud Deslandes, soit élu maire à ce moment-là.
Arnaud Deslandes, donc, plutôt qu'Audrey Linkenheld, qui a aussi toujours été dans son équipe. Martine Aubry la remercie et craque.
Je veux dire simplement qu'Audrey compte pour moi énormément. Excusez-moi, mais on travaille ensemble depuis tellement de temps que je souhaitais lui rendre cet hommage. Voilà. Alors maintenant, je me tourne vers notre premier adjoint, Arnaud Deslandes, avec un grand sourire.
Lui a 42 ans, look BCBG, costume bleu, lunettes noires, arrivé stagiaire sous le beffroi de l'hôtel de ville. Pendant des années, directeur de cabinet, il ose prendre la parole à l'issue de cette conférence de presse.
Et grâce à la confiance de Martine, je peux le dire, moi je suis prêt. Et je m'arrête là, c'est la conférence de presse de Martine, pas la mienne. Je vous remercie.
Et gros yeux de la dame aux 35 heures qui ne voulait pas que son premier adjoint prenne la parole aujourd'hui. Elle quitte tous ses mandats ici, mais ne se retire pas de la vie politique et compte toujours peser sur le Parti Socialiste.
Merci Maxence Lambrec de nous avoir raconté ce départ de Martine Aubry de la mairie de Lille. Il fut l'un de ses rivaux au PS. Manuel Valls, aujourd'hui ministre des Outre-mer, est arrivé sur l'île de la Réunion ce matin, frappé par le cyclone Garance. L'urgence, dit-il, c'est le rétablissement de l'eau, de l'électricité, des réseaux de communication et des axes routiers. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, annoncera lui ce soir l'établissement pénitentiaire qui accueillera à partir du mois de juin les 100 trafiquants de drogue les plus dangereux du pays. Et parmi eux, Mohamed Amra, sous les verrous depuis près de 2 semaines après son évasion meurtrière et sa cavale. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Un des membres du commando qui a permis son évasion doit être transféré en France aujourd'hui.
Oui, il est originaire d'Evreux. Il a 32 ans. Sur les écoutes des enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé, Fernando da Costa, c'est son nom, a un alias. Il est surnommé AB ou encore le prof physiquement. On l'a découvert lors de son interpellation il y a 10 jours en Espagne, dans une villa près de Malaga. Forte corpulence, un peu pâteau. Les enquêteurs pensent l'avoir reconnu sur les vidéos surveillance lors de l'attaque d'Incarville à l'issue de l'évasion sanglante de Mohamed Amra. Mais cela reste encore à confirmer. Fernando da Costa a été soupçonné au départ d'être même celui qui a ouvert le feu et tué les deux agents de la pénitentiaire. Mais selon une source proche de l'enquête, cette possibilité a été écartée. Selon nos informations, ce suspect avait quitté la France pour l'Espagne. Il y a 6 mois, il a séjourné dans plusieurs logements avant d'atterrir dans cette villa de millionnaire de la Costa del Sol, louée pour l'occasion. L'homme aurait organisé plusieurs discussions avec Amra sur l'une des messageries cryptées grand public.
On a aussi Emmanuel davantage d'informations aujourd'hui sur sa cavale. Il n'est pas allé très loin.
Non, pas du tout. Dans un appartement d'une petite maison du centre de Compiègne, loué par un comparse. À quel moment Mohamed Amra a-t-il débarqué pour se cacher? Combien de temps est-il resté? Les enquêteurs ne le savent pas précisément. Mohamed Amra serait ensuite revenu sur Rouen avant de filer vers la Roumanie, comme l'a déclaré hier la procureure de Paris, Laure Bécuot, sur France 2. Et c'est à ce moment-là, début février seulement, que les enquêteurs ont commencé à pouvoir suivre sa trace numérique en finissant par le géolocaliser à Bucarest.
Merci Emmanuel Leclerc. Caroline Darian, la fille de Gisèle et de Dominique Pénin, Bellico porte plainte pour viol contre son père, ce qu'il n'a jamais reconnu malgré les demandes de sa fille. Les enquêteurs avaient découvert des photos d'elle inconsciente et en sous-vêtements en possession de Dominique Pellico, condamné à 20 ans de réclusion criminelle dans l'affaire des viols de Mazan. Au Pays Basque, des CRS sont envoyés en renfort à la frontière espagnole ces derniers jours pour lutter contre l'immigration clandestine et en raison d'arrivées en hausse depuis plusieurs mois. Contrôle suivi hier par Paul Nicolai.
Des fourgons aux vitres teintées dans lesquels ils s'entassent ou bien les bus des lignes régulières dans lesquels ils prennent place, les migrants illégaux franchissent la frontière à Hendaye, mais généralement ne restent pas au Pays Basque, comme le constate Mathias, le chef du détachement des CRS.
Comme de coutume, on sait que les personnes sans papier ne sont pas vouées à rester sur la côte basque. Ils essaient de prendre un moyen de transport qui va les projeter un petit peu au nord du pays. Et donc nous, on intercepte ces moyens de transport, on contrôle le chauffeur de bus, on contrôle la qualité administrative du transport. Et puis ensuite, on contrôle les personnes qui sont à bord.
Comme ces deux jeunes Africains en direction du nord de la France, leur papier était en règle.
Si on quitte chez nous pour venir ici, ce n'est pas seulement parce qu'il y a la misère ou quoi. Des fois, on est ségrégué là.
Pour moi, ça s'est bien passé parce qu'on a les documents avec nous.
Et pour vérifier les papiers, souvent contrefaits et parfois falsifiés avec talent, la police dispose d'un spécialiste de la fraude documentaire, Eric, dont le fourgon est équipé de tout le matériel technique nécessaire.
Alors ici, effectivement, là, j'ai un document qui a été intercepté sur l'aéroport de Biarritz. Donc on est sur une technique de fraude assez sophistiquée par substitution de photographie.
Les compagnies de CRS se succèdent régulièrement afin d'appuyer le travail de la police aux frontières.
Reportage ici, Pays Basque. Voilà deux signes des changements de mode de vie à travers le monde. Nous envoyons de moins en moins de lettres, c'est vrai en France, c'est vrai aussi au Danemark. La poste danoise a donc décidé de ne plus distribuer de courrier à partir du 31 décembre de cette année. Elle va supprimer un tiers de ses effectifs. En cause, le boom du numérique et des colis, mais que vont devenir les boîtes aux lettres danoises. Et puis en Lorraine, cette nouveauté dans un supermarché, ça se passe au Leclerc d'Auconcourt. Nous sommes au nord de Metz. Le magasin est doté depuis 3 mois de 3 robots, dont un pour orienter les clients dans le magasin. C'est l'un des tout premiers de France à le faire et leur présence est très remarquée dans les rayons. Louison Leroy.
La première fois, ça fait quand même bizarre.
Profitez des goûters Chocorème à 2,45€.
Un personnage tout droit sorti de Star Wars et haut d'un peu plus d'un mètre s'est mis au travers de ma route.
Veuillez entrer votre destination.
Je choisis le rayon bricolage sur l'écran tactile.
Suivez-moi.
Allons-y avec Axel Valdener, cet employé du Leclerc d'Auconcourt, responsable de non pas un mais de 3 robots en magasin. L'un devant nous.
Je suis dans vous.
Le grand frère d'1,40 m déambule seulement pour faire la promotion de produits. Le dernier fait le ménage.
C'est vrai que les gens, je pense qu'au premier abord, ils sont plutôt intrigués.
Oui, quand même. C'est pas de ma génération.
Moi, je les calcule pas trop, mais ça amuse bien les enfants.
Un robot.
Les enseignes de la grande distribution se livrent une course à la technologie. Robot vigile, robot qui scanne les étiquettes. Mais orienter les clients, c'est une première, d'après le PDG du Leclerc d'Auconcourt, Jean-Luc Bramas.
C'est un peu un gadget, entre guillemets, en ce moment. Mais ça amène pour le client de l'information supplémentaire.
Et qui ne réclame pas de salaire, mis à part le coût de la location à un prestataire, France Roll Robotics, qui assure recevoir de plus en plus d'appels de grandes enseignes et même de cliniques, de laboratoires, pour transporter cette fois des médicaments. L'entreprise s'attend à voir ses commandes tripler en 2025 par rapport à l'année dernière.
Ici Lorraine, et si on remonte beaucoup plus loin dans l'histoire sur la trace des outils utilisés par les hommes bien avant les robots, voilà une découverte qui bouleverse nos connaissances. Ceux qu'on appelle non pas des hommes mais des homininés, nos ancêtres, fabriquaient des outils en grand nombre et en série. Jusqu'ici on pensait que ça se passait autour de moins 500 000. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
En fait, une équipe internationale a découvert que ce type de production existait déjà il y a 1 500 000 ans.
Oui, et c'est sur un chantier dans le nord de la Tanzanie, bien connu, dans la vallée d'Olduvai, fouillée depuis plus de 70 ans, que les archéologues y ont découvert 27 outils au même endroit. Sur les photos de leur article paru dans Nature, on croit voir de simples morceaux d'os d'hippopotame, grands comme 3 fois la main d'un homme. Et Francesco Derico, archéologue au CNRS et à l'Université de Bordeaux, et ses collègues ont déterminé qu'il s'agit bien d'outils taillés en nombre et de façon similaire, une vraie technique.
on avait des bonnes connaissances de l'or, ce qui ne se casse pas de la même manière que la pierre. Donc, on a transféré aux nouvelles générations des compétences pour l'exploitation de l'os. C'est la première fois qu'on voit que ce comportement est aussi standardisé pour la production d'outils de très grande taille.
Car la découverte la plus étonnante, vous le disiez, c'est leur âge. Fabriqué il y a 1 500 000 ans, jusqu'ici, on savait que les Australopithèques, il y a presque 2 millions d'années, utilisaient des éclats d'os pour fouiller, les termitières notamment. Les outils retrouvés taillés dataient, eux, d'il y a 500 000 ans. Cette découverte de Francesco Derico couvre donc une période transitoire.
C'est un changement de paradigme parce qu'il est possible que dans cette phase de transition, les homininés ont inventé une technologie originale pour avoir des outils lourds pour la boucherie de très grands animaux.
Un bond en arrière d'un million d'années donc et qui ouvre des perspectives pour les archéologues sur d'autres sites, notamment en Afrique.
Rémi Brancato, plus près de nous, circulation très fortement perturbée en ce moment sur la ligne TER entre Colmar et Mulhouse en Alsace, conséquence d'un vol de câble jusqu'à une heure de retard enregistré. Un succès dans le tournoi des Six Nations de rugby pour le 15 de France passe forcément samedi après-midi par une victoire en Irlande. Défi immense pour reprendre les mots du sélectionneur Fabien Galthié ce matin que vous avez donc rencontré, Vincent Pellegrini. On vous retrouve. Fabien Galthié vous a annoncé deux retours, celui de Damien Penaud à l'aile, mais aussi celui de Romain Tamac à l'ouverture. Leur remplaçant avait pourtant été excellent face à l'Italie.
Oui, alors commençons par Damien Penaud, remplacé par Théo Atisogbe à Rome. Il avait été écarté du groupe pour ce déplacement en Italie. Un coup de semonce signé Fabien Galthié, mais sans lendemain. Pour ce qui s'apparente à la finale de ce tournoi, Damien Penaud retrouve donc une place de titulaire. Le sélectionneur ne veut pas se priver du meilleur marqueur actuel des Bleus, 37 essais au compteur, à une unité du record de Serge Blanco. Alors interrogé sur ce retour, Fabien Galthié s'est montré plutôt laconique.
J'aime bien quand vous dites Damien Penaud fait son retour. Ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire ce sont des joueurs qui rentrent dans l'équipe. Et Damien fait son retour dans l'équipe parce qu'il a un potentiel certain, il a fait de très bons matchs avec nous et il est prêt pour jouer face à l'Irlande.
Alors vous parliez de Romain Tamac, Jérôme, alors on l'avait quitté accablé, en pleurs fin janvier au Stade de France, expulsé face au Pays de Galles. Il a purgé sa suspension, il fera donc son retour à l'ouverture samedi à Dublin aux côtés de son coéquipier toulousain Antoine Dupont. Les qualités de défenseur de Romain Tamac pourraient être fort utiles pour contrer la furia irlandaise. Et puis titularisé à l'ouverture à Rome, Thomas Ramos retrouve son poste d'arrière.
7 avant et un seul 3 quarts donc sur le banc de touche.
Comme samedi contre l'Italie, c'est pour muscler un peu.
Si on a le même résultat à la clé, merci Vincent Pellegrini. Samedi 15h15 à Dublin. Et puis on a appris ce matin la disparition d'un grand musicien américain, Roy Ayers, 84 ans. Formé au vibraphone avant de collaborer avec des artistes de renom comme Fela Kuti, puis d'être redécouvert par de très nombreux rappeurs qui l'ont samplé. Parmi ses nombreux tubes, Everybody Loves the Sunshine, qu'on écoute en ce moment. Et qui est un titre de circonstance en ce jeudi ensoleillé. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. On a déjà la couleur du jour à partir de 13h30. Toutes vos questions sur la méningite, maladie qui effraie, car si les cas sont rares, une fois sur 10, ils sont mortels. Comment réagir? Pourquoi cette campagne de vaccination en cours en ce moment à Rennes? J'attends vos questions 01 45 24 7000. 13h45, les coulisses de la sortie du dernier roman de l'écrivain Joël Dicker. On est avec lui toute cette semaine grâce à Ilana Mor-Youssef. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Marie-Luce, c'est l'ouverture de la pêche après-demain.
Oui, et il n'y a plus, on mange plus beaucoup de poissons d'eau douce parce qu'effectivement, il n'y a plus de filière professionnelle. En revanche, nous sommes encore 1 million à taquiner le gardon. Parmi eux, deux jeunes passionnés, Louis-Paul Manoa, qui passe sa vie auprès des étangs et des rivières, sa sœur Marie-Victorine, qui est une chef très en vue à Paris, et on a bien envie de lancer une ligne avec eux.
On va faire ça avec vous, on va cuisiner aussi. Avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Chanteuse de jazz, elle est également pianiste, Macha Garibian. Elle vient de sortir son 4e album, Phénoménal Woman. Et avec elle, la voix d'une chanteuse phénoménale, Luz Casal, et la chanson Un Año de Amor, l'un des titres de la bande originale du film Talon Aiguille de Pedro Almodovar.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je me posais des questions sur le partage de la valeur pour mes salariés. Elodie, ma conseillère Banque Populaire, m'a proposé une solution d'épargne salariale sur mesure, rapide à mettre en place et que je peux piloter en ligne. C'était simple et surtout, ça a fait des heureux.
Accompagner nos clients sur tous les territoires avec des solutions adaptées à leurs besoins, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Mia, va-t'en et ne rentre pas. Peu importe le passé, la maison, les objets, les souvenirs. Allume un grand incendie et emporte le feu. Mia et sa sœur Inès sont nées au Maroc dans les années 80. Comme leur grand-mère Mathilde ou leur mère Aïcha, elles cherchent à être libres chacune à sa façon. Dans l'exil ou dans la solitude, il leur faudra affronter les préjugés et apprendre de nouveaux codes pour trouver leur place. J'emporterai le feu de Leïla Slimani, l'ultime voyage au pays des autres. Un roman Gallimard.
France Inter, partenaire de l'exposition Disco I'm Coming Out. Boule à facettes, paillettes et discothèques. Jusqu'au 17 août, la Philharmonie de Paris fait revivre les grandes années disco à travers une exposition réunissant archives audiovisuelles, photographies, instruments, costumes, design et œuvres d'art. Découvrez la dimension politique, sociale et festive de cette musique au destin planétaire. L'exposition Disco I'm Coming Out, jusqu'au 17 août à la Philharmonie de Paris. Un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Du soleil donc aujourd'hui, notamment sur un vaste quart nord-est.
Oui, beau soleil de la Normandie et du nord de la Seine vers le bassin parisien, le centre Val-de-Loire, le nord-est et les Alpes. Il se voile en revanche sur l'ouest et le sud du pays. C'est très encombré de l'est des Pyrénées vers le sud du Massif central et les Bouches-du-Rhône avec des pluies sur le Languedoc-Roussillon, surtout sur le relief. Il neige au-dessus de 1800 mètres sur les Pyrénées. Il y a du vent assez fort sur ces régions, jusqu'à 60 à 70 km à l'heure, jusqu'à 90 à 100 même pour le vent d'autan vers le Lauragais. Sur l'est de la Corse, là aussi, quelques pluies. Et puis, la douceur est au programme. Hein. Grande douceur, des températures assez homogènes, entre 15 et 20 degrés cet après-midi. 15 à Dinard-Montpellier, 18 à Metz, Paris. C'est digne d'une fin avril. Ouais. 18 aussi à Tours, à Lyon, à Marseille. 20 à Bordeaux et Biarritz. Demain, ce sera à peu près le même programme. La journée la plus douce, c'est certainement pour samedi. Mais ça va se gâter sur le sud-est pour ce week-end.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. De 13-14... Jérôme Cadet.
Bonjour Sandrine Bourdoulous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut Cochin, spécialiste de la méningite. Nous vous avons invité parce que les autorités mènent depuis le début de la semaine une campagne de vaccination à grande échelle autour de Rennes. Et c'est très rare, vaccination de 100 000 jeunes de 15 à 24 ans contre la méningite à méningocoque B. Car début février, 3 cas ont été détectés en périphérie de Rennes. Une femme de 18 ans était décédée. Puis 3 semaines plus tard, 3 étudiants de l'école de commerce Rennes School of Business étaient à leur tour contaminés et dans les deux cas il s'agissait de la même souche. Alors qu'est-ce que cette maladie? Comment se propage-t-elle? Pourquoi est-elle si mortelle aussi? J'attends vos questions. 01 45 24 7000. On pourra aussi vous donner des conseils lorsque vous avez des doutes, des suspicions. D'abord Sandrine Bourdoulous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une méningite? Qu'est-ce que c'est que cette maladie?
Donc une méningite est due à une infection des méninges. Donc les méninges, ce sont les enveloppes qui protègent le cerveau. Donc le plus souvent, les méningites sont dues à des infections virales. Et dans ce cas particulier, on parle d'une infection à bactéries, donc une bactérie qui est très pathogène, qui s'appelle Neisseria meningitidis, ou également méningocoque. Donc elle est responsable de méningites aiguës, des formes qui sont très graves, et qui évoluent malheureusement extrêmement rapidement.
Ça veut dire qu'on l'attrape, si je puis dire, comme une grippe? Enfin, c'est la même type
Alors,
de contamination?
C'est une bactérie qui réside naturellement dans le nasopharynx de l'homme. Donc c'est le seul réservoir connu. Les jeunes adolescents sont généralement les porteurs les plus importants. Et elle est transmise par les voies aériennes, donc par des gouttelettes ou par la salive.
Pourquoi les jeunes adolescents sont les porteurs les plus fréquents?
Alors c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien déterminé.
On ne sait pas vraiment pourquoi, on essaye de savoir.
On essaye de savoir, exactement.
Mais on ne sait pas exactement pour quelles raisons sont les jeunes qui sont plus touchés que les plus âgés à ce stade.
Donc, effectivement, ce sont surtout les enfants, de moins d'un an, et les jeunes adolescents entre 15 et 25 ans, enfin jeunes adultes, qui sont les plus à risque de ces infections.
Combien de morts en moyenne chaque année liées
à la méningite ? On a de la chance, ça ne représente pas beaucoup de morts, car dès qu'il y a un cas, il y a l'ARS qui est prévenue.
Les agences régionales de santé qui interviennent.
Les agences régionales de santé interviennent, car il y a des risques de propagation d'épidémies importantes. Donc, dès qu'un cas est signalé, il y a des mesures qui sont prises de façon très rapide pour prendre en charge le patient et prendre en charge toutes les personnes qui ont été en contact avec ce patient pour éviter justement la propagation de la maladie.
Donc peu de morts, c'est quoi ? C'est quelques dizaines chaque année ?
Alors chaque année, on a à peu près 600 cas actuellement en France, ouais, avec une 10% de mortalité.
10% de mortalité, c'est ça qui fait la particularité de cette maladie ?
C'est ce qui fait
qu'elle est extrêmement mortelle.
Elle est mortelle, malgré un traitement antibiotique précoce, elle reste mortelle. Et évidemment, sans traitement, c'est 100% de mortalité.
Alors, le traitement, il est en cours à Rennes. Vaccination, précisément, des jeunes hein, de 15-24 ans. Nous sommes en ligne avec Thierry Labarthe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Champy, donc tout près de Rennes. Vous êtes le président des médecins libéraux de Bretagne. Vous vaccinez depuis quelques jours des jeunes qui viennent à votre cabinet. Ça fonctionne, cet appel à vaccination ?
Alors tout d'abord, comme l'a rappelé ma consoeur, effectivement, il y a des effets d'alerte qui ont été déclenchés depuis la fin de semaine dernière sur les deux clusters. C'est comme quand on sort les chasse-neige et on sale parce que la température diminue. Et ben là, c'est parce que ces deux cas sont arrivés qu'il a fallu déclencher ce plan de masse, évidemment à grande échelle parce qu'on touche une grande ville. Oui, nous commençons à vacciner. On le rappelle que les vaccins, c'est quand même pas, ça n'arrive pas non plus en cinq minutes dans les pharmacies. Donc depuis aujourd'hui, par mes échos et mes collègues pharmaciens, on voit que les pharmacies sont dévalisées. Vu qu'on sait, les jeunes peuvent se présenter sans ordonnance dans les pharmacies pour se faire directement vacciner auprès de nos collègues pharmaciens ou dans les cabinets médicaux, auprès des sages-femmes ou des infirmiers libéraux.
C'est très rare ce type de campagne aussi large, aussi vaste, Thierry Labarthe. Pour quelle raison ?
Alors, de toute façon, là, parce que, comme le disait ma consoeur, nous avons des 15-24 ans et la population, c'est 100 000 habitants, étudiants qui viennent d'autres régions de Bretagne, mais qui vivent et travaillent à Rennes. Donc, c'est la population ciblée qui est importante. Donc, on a vécu le Covid avec des vaccinations totalement différentes, mais organisées. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. Et on sait à quel point la multiplicité des offres va faire que l'accessibilité et la facilité pour les 15-24 ans va être importante, c'est-à-dire soit dans les facs, auprès des facs, là il y a des centres qui commencent aujourd'hui dans le nord de Rennes et au sud de Rennes, et puis des projets sont à faire dans les grands lycées rennais pour aussi avoir la proximité avec les lycéens, les étudiants, et puis bien
on
évidemment
on va aussi vacciner dans les lycées rennais, c'est ce que vous nous dites.
Ben, il y a des perspectives sur certains groupes de gros lycées avec des internats ou la mise à disposition d'équipes pour vacciner sur des temps courts.
On a beaucoup d'appels d'auditeurs, 01 45 24 7000. Je voudrais qu'on accueille Luc. Bonjour Luc.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le département du Var, nous vous écoutons.
Oui, actuellement je suis au département du Var, hein, parce qu'avec les enfants, en fait, je suis domicilié en fait, sur la Haute-Savoie, sur Annecy. Et en fait, là, bon, on a passé un peu des vacances en bas dans le Var, hein, mon pays de naissance. Et écoutez, on écoutait la radio comme tout le monde, hein, les infos et tout, et on s'inquiète là, parce que moi j'ai trois enfants, là, un de 19 ans, un de 17 ans et un de 14 ans. Et on aimerait savoir un peu de quoi il en résulte cette épidémie foudroyante là de méningite, là. Comment ça va tourner, qu'est-ce qu'on doit faire exactement.
Même si on n'habite pas en Bretagne.
Même si on n'habite pas en Bretagne, parce que bon, moi, mon enfant de 19 ans, il a été vacciné contre le Covid. Il a fait beaucoup d'effets secondaires suite à cette vaccination, vous voyez.
Bien sûr.
Alors, on n'aimerait pas voilà, leur ajouter encore des vaccins sur d'autres vaccins et savoir ce mélange-là avec tous ces adjuvants, voilà, à long terme, on ne connaît pas les effets, vraiment. Hein, voilà.
J'entends votre inquiétude. Merci Luc pour cet appel. Sandrine Bourdoulous, est-ce qu'on doit s'inquiéter quand on n'habite pas dans la région et près des cas concernés ?
Donc, a priori, non. S'il y a un cas déclaré dans la région du Var proche de l'habitat de ce monsieur, peut-être effectivement il pourra s'interroger sur la pertinence de faire vacciner son enfant. Maintenant, on recommande effectivement la vaccination chez les jeunes enfants. il y a la vaccination qui est maintenant obligatoire à partir du 1er janvier contre l'ensemble.
Type de méningite ?
Alors, donc, on parle toujours du méningocoque, mais le méningocoque a une capsule qui peut varier. Donc, on a différents sérogroupes. On va nommer A, B, C, Y, W. Et donc, là, on va vacciner les enfants contre l'ensemble de ces sérogroupes qui sont pathogènes chez l'homme.
Et pour les enfants qui sont plus âgés, c'est jusqu'à quel âge ce vaccin ?
Alors, idéalement, il faudrait protéger les enfants au-delà de 11 ans.
Au-delà de 11 ans.
Donc, c'est recommandé pour les 11-14 ans.
Pour les 11-14 ans, Luc a trois enfants qui ont plus de 14 ans. Quels sont les symptômes qu'il faut guetter ? Qu'est-ce qui doit alerter les parents ?
Alors, ce qui doit alerter, c'est une forte fièvre. Alors, ce n'est pas évident au départ. Hein. C'est pour ça que souvent, malheureusement, les cas peuvent être fatales du fait d'une absence de diagnostic rapide. Donc, ce qui doit alerter, c'est une forte fièvre, la nucrède, une photophobie, des vomissements. Et surtout, alors on parle toujours de la méningite, mais cette maladie est foudroyante surtout parce qu'elle est responsable de septicémie de forme sévère avec des altérations vasculaires majeures.
C'est quoi une septicémie ?
Alors une septicémie, c'est l'infection du sang, donc la bactérie passe dans le sang, se multiplie, et elle détruit les vaisseaux. Et donc on a apparition de petites taches brunes. Alors si on voit ça, c'est très dangereux, c'est la forme la plus grave. Il faut une antibiothérapie très très rapide.
Et donc là, c'est direct les urgences ?
Ah, mais oui, bien sûr.
Ouais.
Et malheureusement, souvent, on parle des morts, mais on oublie de mentionner les séquelles qui sont très graves du fait de ces infections. Dans le meilleur des cas, on perd l'audition. Dans le pire des cas, on a une nécrose totale des tissus qui requiert, donc nécessite une amputation. Mmh. Et le meilleur exemple, c'est notre nageur handisport,
Théo Curin,
ouais.
Qui suite à sa méningite,
à une méningite assez groupée, s'est vu amputé de ses quatre membres.
On a entendu Thierry Labarre, je reviens vers vous à Champy près de Rennes, les réserves de Luc en disant j'ai vacciné mes enfants contre le Covid, j'ai pas encore envie de les vacciner contre autre chose. Est-ce que c'est un discours que vous entendez aussi dans votre cabinet?
Non, mais par contre, il y a une méconnaissance bien normale et une pseudo, je veux dire, réassurance des patients. Car quand on a vacciné des jeunes pour le vaccin méningocoque C, qui se faisait assez régulièrement, beaucoup de gens me disent « mais moi, au fait, mes enfants sont vaccinés ». Je leur dis « bien évidemment non, ils sont vaccinés contre le sérogroupe C ». Et aujourd'hui, la méningite qui se développe, enfin, qui a des cas sur Rennes, est une méningite de méningocoque B. Et aujourd'hui, tous les jeunes nourrissons qui passent dans tous les cabinets de France et de Navarre sont tous vaccinés aujourd'hui contre le méningocoque à méningocoque B, jusqu'à, voilà, et ça les protège très bien avec l'ensemble des sérotypes. Donc ça, tous les jeunes nourrissons, jeunes parents doivent être rassurés. Les parents peuvent aussi se poser des questions sur l'intérêt de vacciner dans le calendrier vaccinal sur le ACWY, qui sont peut-être aujourd'hui moins prioritaires pour nous sur Rennes, mais qui restent une vraie plus-value pour vacciner tous les jeunes de 15 à 24 ans par ce vaccin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour ce patient de faire vacciner ses enfants par le sérotype B. Peut-être que demain, le calendrier vaccinal changera, mais aujourd'hui, il n'est pas comme ça.
Question de Chloé également, est-ce qu'il y a un rappel ?
Oui, bien sûr, c'est un vaccin qui se fait en deux injections pour les 15-24 ans, c'est-à-dire 4 semaines après, il faudra refaire une deuxième injection. Et c'est peut-être l'occasion justement de faire le ACWY lors de la deuxième injection pour vraiment couvrir toutes les méningites qui sévissent en France.
Alors, on a parlé avec vous il y a une minute, Sandrine Bourdoulous, des symptômes et de ce qui arrive à certaines familles quand l'un de leurs enfants souffre et subit une méningite foudroyante. C'est ce qui est arrivé à votre fille, Jimmy Voisine. Bonjour.
Bonjour.
Vous habitez près d'Angers, vous avez fondé l'association Méningite France, association Audrey. Audrey, c'est votre fille qui est décédée en 1999, elle avait 12 ans, d'une méningite foudroyante. Aujourd'hui, vous vous battez avec cette association pour qu'il y ait davantage de campagnes d'information dans les écoles, sur les campus également.
Tout à fait. Et on est en relation aussi avec les différentes autorités, comme au ministère, la DGS, Santé publique France, Institut Pasteur, pour aussi construire des différents supports de communication, de prévention. Notamment, qu'on a fait, là qu'on remet à jour depuis, je veux dire, il y a plus de 5 ans, un livret de prévention sur 14 maladies. Donc, on parle sur les méningites bactériennes, donc le pneumocoque et le méningocoque. Donc ouais, c'est la vraie qu'on fait, parce que aujourd'hui, notre combat est une façon de faire notre deuil. Donc en 99, c'est notre propre ignorance qui a permis à la bactérie d'arriver à son terme. Donc voilà un petit peu tout le travail qu'on fait de prévention en travaillant avec les différentes autorités.
Parce que vous n'aviez pas conscience des symptômes, vous connaissiez mal ou pas du tout peut-être cette maladie de Jimmy Voisine quand elle a emporté votre fille ?
Non, on ne connaissait pas du tout la maladie. On avait entendu le nom, mais sans savoir vraiment qu'est-ce que c'était une méningite, quels sont les symptômes. Oui, donc aujourd'hui, dirais-je, avec beaucoup de recul, si on avait connu comme la sensibilité à la lumière, c'est quelque chose qu'elle avait. Donc c'était en période grippe, c'était en février. Donc on avait rendez-vous que le lendemain matin, donc chez le médecin, mais c'était trop tard.
Mmh. Vous avez le sentiment qu'on a progressé de ce point de vue-là ou pas, depuis toutes ces années ?
Alors, depuis 25 ans de l'association, dirais-je, dans le cadre de la communication, oui, c'est beaucoup plus facile. Donc nous, je sais qu'en 2024, on avait soulevé le problème en disant bien ce qui s'était passé en janvier 2023, donc la centaine de cas en l'espace d'un mois, ne pouvait que se reproduire donc par rapport à l'évolution de notre société. Donc les échanges entre au niveau des personnes, donc ça ne pouvait que se reproduire. Et c'est vrai que qu'en 2024, la proposition du nouveau carnet non vaccinal avec le nouveau vaccin quadrivalent, donc voilà, et nous aujourd'hui on dit bien aux personnes que voilà, il y a deux vaccins, le vaccin pour qui protège contre le A, le C, le W et le Y, mais il ne protège pas contre le B, et le B, lui, c'est 50% des cas de méningite en France.
Et c'est celui qui concerne Rennes en ce moment. Merci Jimmy Voisine d'avoir été en ligne avec nous. Méningite France, Association Audrey, pour tous les auditeurs qui veulent se rapprocher de vous. Un dernier mot avec vous, Sandrine Bourdoulous. Augmentation des cas en janvier 2025 par rapport à janvier 2024. On vit un hiver particulier aussi parce que la grippe a beaucoup circulé. Est-ce qu'il y a un lien ?
Oui, effectivement. Donc, la bactérie réside dans la gorge. Donc tout ce qui va fragiliser en fait les muqueuses de la gorge vont faciliter la propagation de la maladie. Donc on a souvent une concordance entre les événements de grippe et les infections à méningocoque.
Donc davantage d'infections parce que la grippe a plus circulé.
On a oui, une grippe plus sévère cette année.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sandrine Bourdoulous, directrice de recherche CNRS à l'Institut Cochin. Je salue également le médecin Thierry Labarthe, président des médecins libéraux de Bretagne. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous sommes toute cette semaine avec l'écrivain Joël Dicker, l'un des auteurs francophones les plus lus qui publie cette semaine son dernier roman et qui nous a ouvert les portes. Dernier épisode aujourd'hui, les premiers pas, les conseils de son premier éditeur, Bernard de Fallois, et son premier salon du livre. Il était alors inconnu du public.
En septembre 2012, j'ai fait paraître mon premier roman quelques mois plus tôt qui s'appelle « Les derniers jours de nos pères » aux éditions de Fallois, dont on a dû écouler 300 exemplaires, dont ma grand-mère a dû en acheter 290. Et donc, seulement quelques mois après, porté par l'enthousiasme de Bernard de Fallois, va paraître « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Et ce livre se retrouve, avant sa parution, sur la liste du Goncourt. Et Bernard me dit « Joël, avec sa grosse voix, Joël, vous devez aller au festival du livre de Nancy, le livre sur la place, c'est très important ». Il m'envoie là-bas. Je me retrouve à Nancy, un peu catapulté dans ce salon littéraire, avec ce livre qui n'est pas encore sorti. Moi, personne ne me connaît. Et je suis installé à une table. Et j'attends. On signe plus ou moins pas du tout. La journée se passe. Et à la fin de la journée, l'attaché de presse qui est avec moi me dit « Bon, on va aller dîner quelque part. » Et elle interroge les gens autour d'elle, qu'elle connaît, des différentes maisons, en disant, on est deux, mon auteur et moi, est-ce qu'on peut dîner ensemble? Et là, première fois, on lui dit, ah, non, t'es pas de notre maison, donc non. T'arrange quelqu'un d'autre, est-ce que je peux dîner? Non, t'es pas de chez nous, non. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, quinze fois, on se retrouve, et conduit par tout le monde. Et elle me dit, bon, bah, c'est pas grave, on va manger ensemble. Et on cherche un restaurant, mais évidemment, un soir à Nancy, au Livre sur la place, pas de réservation, personne n'a de place pour nous. Et on se met à errer dans les rues de Nancy, comme deux pauvres âmes. Et on sera recueillis ce soir-là par Héloïse d'Ormesson et son mari Gilles, qui nous accueillent en disant « Mais nous, on a une table, venez avec nous, vous êtes tout seul, enfin. » Et j'ai été hyper touché par cette réparation et cet accueil.
Mais au fond, il y a une morale à cette histoire. Et est-ce que vous la gardez en tête aujourd'hui que vous êtes devenu un écrivain très célèbre?
Vous savez, les Anglais ont cette phrase que j'aime bien. Ils disent « It's nice to be important, but it's important to be nice ». J'ai obtenu très jeune des prix importants dans la littérature française, qui sont des prix en plus qu'on n'obtient qu'une fois et plus jamais. Et donc peut-être que ça m'a aussi permis de passer à une autre étape. À 27 ans, j'ai eu ce grand prix de l'Académie française qui a résonné pour moi de façon très forte. J'étais bien conscient que ce n'était pas un couronnement. J'étais bien conscient que ce n'était pas le couronnement d'une œuvre. Et Bernard me l'a toujours dit. Il m'a envoyé un mail un an après l'apparition de l'affaire Harry Kéber. J'étais à Londres, j'ouvre mon email, je vois son message. Et il me dit, ça fait un an que Harry Kéber est paru. Et en somme, il me dit, c'est pas mal, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Votre carrière ne commence que maintenant. Quel juste avertissement.
Justement, alors, on a le sentiment qu'après toute cette affaire des prix, de la reconnaissance institutionnelle, vous l'avez laissé de côté, le Goncourt, le Renaudot, tout ça ne vous intéresse pas?
Mais c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je crois qu'il faut aussi laisser sa place. On ne peut pas vouloir tous les prix. Je suis très touché et très, très heureux de la confiance que le milieu m'a témoignée. Et maintenant, je crois que mon rôle, c'est aussi d'ouvrir la voie ailleurs, et parce que j'en ai envie, et de me concentrer sur mes lecteurs et de faire lire. C'est ça qui, aujourd'hui, me fait me lever le matin.
Feuilleton signé Ilana Mor-Youssef, réalisation Stéphane Ronxin, et vous le retrouvez, ce feuilleton en intégralité, les 4 épisodes, sur le site de France Inter.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le jeudi, nous parlons gastronomie avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, l'ouverture de la pêche, c'est samedi et c'est aussi une date symbolique pour tous ceux qui la pratiquent, car elle a un avant-goût de printemps.
Oui, ça y est Jérôme, on retrouve le chemin des étangs et des cours d'eau. D'abord pour taquiner la truite, les ablettes, les écrevisses américaines ou l'omble chevalier, plus tard les brochets. Mais il y a quelque chose d'étrange à énumérer tous ces noms de poissons d'eau douce qui semblent ne plus exister que dans les livres d'images. Et pourtant, en 2023, il y avait encore 1 459 467 pêcheurs d'eau douce en France, plus que dans les années 2000. Ils sont 5 fois plus nombreux que les licenciés de rugby. Il y en a 500 000 de plus que de chasseurs.
Et où vont tous les poissons qu'ils vont pêcher donc dans les prochains jours?
Ben quasiment justement plus sur les étals, car la filière de la pêche professionnelle du poisson d'eau douce a presque totalement disparu. Les truites sauvages, les cendres, on les déguste à la maison quand on a la chance de connaître un passionné de l'hameçon triple bronzé et du moulinet à mouche.
On en mange moins aussi parce que les pêcheurs du dimanche ont beaucoup changé.
Oui, près de 400 000 d'entre eux ont moins de 18 ans et pratiquent beaucoup le no-kill, c'est-à-dire la remise à l'eau du poisson aussitôt après l'avoir attrapé. Dans le supplément que Sud-Ouest a sorti hier pour l'occasion, Frédéric Roux, pêcheur et sociologue, raconte avec humour le jour où il a dit à un jeune « Tu sais que c'est très bon une huître ?» et que celui-ci lui a répondu «
Une truite ?»
Ok, boomer. Les temps changent, Jérôme, et les pollutions ont rendu le milieu fragile. Les eaux douces regorgent de silures et d'écrevisses américaines que nous ferions mieux de manger plutôt que d'importer les 2/3 de notre consommation de poissons. Mais des espèces comme l'alose, le saumon, la lamproie et même l'anguille sont très menacées.
Cette pêche responsable est justement celle que défendent Marie-Victorine et Louis-Paul Manoa.
Oui, ces deux-là sont frères et sœurs. Leur papa, à la tête d'un célèbre bouchon lyonnais, les a menés pêcher le week-end dans les étangs de la Dombe. Marie-Victorine, 33 ans, est devenue l'une des chefs parisiennes les plus en vogue. Son frère, 27 ans, cherche inlassablement ses coins de paradis. Toutes les semaines, j'adore arriver près d'un point d'eau et voir...
Marie-Luce Ribaud, est-ce que vous êtes toujours avec nous en direct de Bordeaux? On a perdu Marie-Luce sur les traces des poissons, des brochets et des silures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la recette. C'était la recette de Marie-Victorine, je ne vais pas vous la donner, mais c'était une brandade de silures. On va vous la mettre en ligne sur le site d'Inter et vous pourrez partir à la pêche l'esprit léger à partir de samedi. Marie-Luce Ribaud, vous trouvez tout donc en ligne sur franceinter.fr de cette chronique. C'est la France. Qui nous amène à C'est une chanson? Vous disparaissez pas, vous, Frédéric Pommier. C'est une pianiste et chanteuse de jazz qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro. micro. Elle s'appelle Macha Garibian.
Révélation des victoires du jazz en 2020. Elle sera ce samedi en concert dans le Cher à Saint-Amand-Montrond pour présenter les titres de son nouvel album Phénoménal Woman, magnifique album qu'elle donnera aussi à entendre fin mars au Café de la Danse à Paris. Et c'est la voix de l'espagnol Luz Casal que Macha Garibian a souhaité que l'on écoute avec la chanson Un año de amor qu'elle a découverte vers 12-13 ans dans le film Talon aiguille de Pedro Almodovar.
La scène, c'est Miguel Bosé qui joue le rôle du juge et qui la nuit se travestit en femme et qui va chanter dans les cabarets. Et il chante cette chanson, Un año de amor. Et il rentre sur scène avec son apparat de femme, avec son maquillage.
Une robe très près du corps.
Oui, et il commence la chanson en faisant des gestes. Et tout le monde fait le même geste. C'est comique, on ne verrait jamais ça sur scène. Moi, je ne verrais jamais un public reprendre des gestes que je fais. Donc c'est très drôle, c'est très risible. Mais il faut aussi savoir qu'au départ, cette chanson, elle a été écrite par Nino Ferrer. Et c'est un peu insipide. C'est juste un homme qui dit « Je suis seul maintenant que tu m'as quitté ». Et c'est Pedro Almodovar qui en fait une traduction en espagnol, « Un año de amor ». D'un coup, ça devient beaucoup plus dramatique, plus intense. Et chanté par Luz Casal, ça devient une chanson déchirante, en fait.
Quand vous voyez ce film et cette scène avec Miguel Bosé, vous avez 12-13 ans, ça provoque quoi chez vous ?
Mais une forme de fascination, parce qu'il est beau. Il est très très beau en femme. Et je trouve ça génial. J'adore cette scène.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin. Que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor.
C'est donc dans le film Talon Aiguille, 1991, qu'est sortie cette chanson Un año de amor, Frédéric.
Chanson qui, au départ, s'appelait C'est irréparable dans la version originale de Nino Ferrer. Et cette chanson reste liée à un moment fondateur dans la vie et la carrière de Macha Garibian.
Je me mets à la chanter quand j'ai 19 ans sur scène dans un spectacle a cappella. Et pour la première fois, je chante toute seule face à un public, tous les soirs, pendant plusieurs jours. Et c'est la première fois que j'assume que je peux être chanteuse, moi aussi. Parce que j'étais déjà pianiste depuis très petite, mais c'est la première fois que je chante pour des gens et que j'ose. Et que j'ose, en fait. Je crois que cette chanson, elle m'a permis d'oser, parce qu'elle a cette chose très extravagante et une féminité très assumée.
Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas.
En plus, le sens de la chanson, elle dit en gros, tu m'as quitté et tu vas t'apercevoir que les jours sont longs et vides sans moi et tu le regretteras et tu seras plus jamais heureux. Enfin, je trouve ça tellement énorme de dire ça. Et c'est tellement universel quand on a été quitté, d'avoir envie de dire ça à quelqu'un. Tu ne m'oublieras jamais et tu seras malheureux toute ta vie parce que tu m'as quitté.
Vous n'avez jamais prononcé ce genre de phrases ?
Je ne les ai pas prononcées, mais je les ai pensées.
Plusieurs reprises ?
Au moins 3, 4, 5. Voilà, dans ces eaux-là.
Vous avez été beaucoup quitté ?
Non, oui, enfin non, non pas tant. Non, en vérité, vraiment deux fois alors.
De ruptures très difficiles ?
Une oui, l'autre moins, finalement, avec le temps. Mais oui, une.
Il a été malheureux après, la rupture ?
Oui.
Très ?
Très.
Affreusement malheureux ?
Affreusement malheureux. Un año de amor.
Luz Casal, Un Año de Amor, c'était donc Frédéric, le choix de Macha Garibian.
Macha Garibian qui sera en concert les 27 et 28 mars au Café de la Danse à Paris pour chanter son nouvel album, Phenomenal Woman.
Et après-demain samedi, donc à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Merci Frédéric Pommier.